10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Quel plaisir de vous retrouver en ce mercredi en direct et jusqu'à 16h pour vous écouter. Et avec moi, à mes côtés, ma camarade Ambline. Bonjour ma chère.
Bonjour.
Vous allez
bonjour
bien?
Bonjour à tous, ça va bien, merci.
Ici, comme vous le savez, nous partageons vos expériences de vie et vos réflexions car votre vécu nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que ça veut dire être amoureux? Autant de questions que les enfants posent avec innocence mais auxquelles il faut répondre, nous, en tant que parents. L'amour, la vie, la mort sont des sujets complexes et philosophique. Il est intéressant que les enfants puissent développer leurs réflexions sur ces sujets, mais la philosophie est enseignée seulement en terminale. Alors, certains parents inscrivent leurs enfants dans des ateliers de philo, un moyen de répondre à leurs questionnements, d'exprimer leurs pensées. C'était d'ailleurs l'objet du film Le Cercle des Petits Philosophes, pardonnez-moi, réalisé par Cécile Dangean et qui est sorti en salle en avril dernier.
Vous savez ce que c'est que les émotions?
L'amour.
L'amour, ça peut faire mal au cœur. Et après, on veut plus voir de couleur. C'est un peu dommage.
Les amis, c'est comme de l'argent. Sans argent, t'es pauvre. Et sans amis, c'est presque pareil.
Mais que peut apporter la philosophie aux enfants? Doit-elle être enseignée plutôt? Philosophie pour les enfants, quels sont les bienfaits? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Oui, on vous écoute chaque jour au standard d'Europe 1, 39, 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis bien sûr Twitter avec le hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant deux personnes pour commencer cette émission, Élodie et son fils Alexandre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
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 Alors, bonjour, je me tourne d'abord vers vous Élodie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 37 ans et je vous appelle de Sartrouville.
D'accord. Alors en grandissant, votre fils Alexandre a commencé à vous poser des questions auxquelles vous n'arriviez pas vraiment à répondre. Quel type de questions?
Alors, il nous a posé des questions du type comment la vie est apparue, d'où vient la première graine, qu'y a-t-il après la mort, pourquoi y a-t-il des gens qui font du mal aux autres?
Oui.
Voilà, ce type de questions.
Type de questions existentielles qui, dès qu'elles viennent, à l'âge. À quel âge il a commencé à vous poser ce type de questions?
Dès qu'il a su parler, hein, quasiment.
Eh oui.
Des questions et toujours à des moments auxquels on ne s'y attend pas.
Vous dites,
on n'a pas forcément de réponse.
Vous dites que vous aviez peur de faire des réponses d'adultes. Qu'entendez-vous par là?
En fait, nous avions peur de faire des réponses figées, alors que le type de questions qu'il nous posait appelait plus des questions ouvertes. Et on avait peur de l'enfermer dans nos réponses à nous, en fait. Alors que justement, nos réponses aussi ne nous satisfaisaient pas forcément, puisque c'était vraiment des questions très très ouvertes.
Oui.
Donc, voilà.
Et on le sait, hein, les réponses amènent d'autres questions chez les enfants comme chez les adultes hein, d'ailleurs. Vous avez donc décidé d'inscrire Alexandre dans des ateliers de philosophie. Il n'avait alors que 5 ans et demi. Alors Alexandre, prends le téléphone à maman. Comment est-ce que tu as réagi quand ta mère t'a proposé d'aller à ces ateliers de philosophie?
Heureux parce que je voulais au moins en tester un pour voir si c'était bien.
Oui, et alors c'était bien? Tu as trouvé ça bien dès
oui,
le début?
Oui, c'était très bien parce que disons qu'en fait on faisait un cercle
oui.
avec des tables et au milieu il y avait une bougie.
Oui.
Et tout le monde était à la même distance comme ça. Ceux qui étaient le plus près, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient les plus intelligents parce que sinon ça serait pas bien.
Oui, alors tu te poses beaucoup de questions, hein, Alexandre, sur la vie, sur le monde qui t'entoure.
Oui.
Alors quelle est la première question qui voilà celle qui t'intéresse le plus? Parce qu'on a parlé du temps, on a parlé de l'amour. Ta maman a souligné le fait que tu ne comprenais pas pourquoi certaines personnes faisaient du mal à d'autres. Quelle est la question là qui viendrait en premier pour toi qui te taraude un peu?
Pourquoi en fait l'univers s'est créé?
Pourquoi l'univers s'est créé, oui. Est-ce que quand tu te poses ce genre de questions aussi, tu penses à l'éternité, à, voilà, cet univers où voilà, l'espace ne s'arrête jamais? Ce sont des questions qui te pose problème, ou d'ailleurs, est-ce que ça te pose problème, ou est-ce que tu veux qu'on t'explique?
J'aimerais bien qu'on m'explique un peu ça.
Mmh. Alors, Élodie, je oui. suppose que pour vous, ça ne devait pas être facile d'expliquer voilà, la création de l'univers et puis aussi voilà, l'espace hein, infini, le temps infini. Quelle formule était proposée pour ces cours, en fait, devant ce questionnement?
Alors, en fait, ce sont des ateliers et il y avait des ateliers parents-enfants et des ateliers enfants. Et donc, en fait, on recevait des mails nous proposant une thématique. Et donc, on proposait à Alexandre, on lui proposait d'y aller. S'il voulait y aller, on l'inscrivait. S'il ne voulait pas, on ne l'inscrivait pas.
D'accord. Ce qui est plutôt... alors, quel type de thématique, par exemple?
Alors, il a assisté aux ateliers sur l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié?
Oui.
Qu'est-ce que le bonheur?
Mmh.
Qu'est-ce que la liberté? La nature aussi.
Oui. Tout un tas de thèmes en fait qui ont rapport avec le questionnement des enfants, hein, plus particulièrement dès que voilà, dans leur tête ça commence à prendre forme tout ça et que les questions arrivent. Vous restez en ligne avec nous hein, tous les deux, Élodie et Alexandre. Nous allons voir ce que vous avez fait pendant ces ateliers et surtout quel bienfait la philosophie a eu sur Alexandre comme sur vous, Élodie.
Europe 1.
Qu'est-ce que la philosophie apporte aux enfants, aux vôtres en particulier, le 39-21 pour témoigner. Et je vous rappelle qu'on lit vos messages sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. La philosophie pour les enfants, pour les aider à raisonner, à argumenter, pour leur apporter des éléments de réponse à des questions existentielles. Vos enfants sont-ils adeptes de la philosophie? Vous êtes avec Olivier Delacroix, vous partagez votre expérience au 39-21.
Et nous sommes toujours en ligne avec Élodie qui nous expliquait que son fils Alexandre, on est en ligne aussi avec lui, qu'Alexandre, dès qu'il a été en âge de parler, se posait tout un tas de questions autour de la création de l'univers, autour de l'amour, de l'amitié. Alexandre, reprends le téléphone à maman, parce que j'ai une autre question à te poser. Peux-tu nous raconter ce que tu fais pendant ces ateliers? Par exemple, l'atelier sur l'amitié. Comment ça s'organise?
En fait, on lève le doigt.
Oui.
Et chacun parle. Il y a des enfants, ils sont pas d'accord.
D'accord.
Tout le monde,
on échange. On échange les
oui,
idées.
On échange.
Est-ce que donc au milieu, il y a une... alors pas une professeure ni une maîtresse, mais en tout cas une grande personne qui aide justement à guider le débat, à l'orienter, puis qui donne certaines réponses?
Oui.
Oui. Et alors comment tu te sens après ce type de réunion, quand tu as échangé avec d'autres enfants, que vous avez évoqué une problématique qui vous pose vraiment des questions? Comment est-ce que tu te sens?
Disons, je me sens bien parce que j'ai passé un bon moment avec des gens que je ne connais pas, mais même c'était très bien d'échanger entre nous.
Tu as compris des choses, surtout, j'ai l'impression. Et quelque part, ça doit donner cette impression qu'on a avancé, là. Ça dure combien de temps, en fait, ces ateliers? Ça dure une heure, deux heures?
Entre une heure, 1h30, généralement.
D'accord. Alors, il y a aussi des ateliers parents-enfants, Élodie, hein, je crois. Vous avez eu l'impression, vous-même, d'apprendre des choses?
Oui, j'ai appris beaucoup de choses et le fait d'écouter, d'observer les enfants, découvrir la philosophie,
oui.
Agir, c'est très enrichissant pour nous adultes parce qu'on ne prend pas le temps en fait de réfléchir à de tels sujets et eux ont cette chance durant ces petits moments de comprendre en fait et d'échanger et de comprendre la valeur de l'échange.
Et ensuite à la maison, comment ces réflexions ont-elles évolué? Est-ce que vous continuez d'échanger avec Alexandre?
Oui, on continue. Et puis, donc, on a aussi on essaie d'utiliser la même démarche. Le fait de confronter plusieurs idées, je demande souvent à Alexandre d'essayer de trouver une autre idée qui serait peut-être contradictoire.
Oui.
Pour justement qu'il comprenne que, à ce type de questions, il n'y a pas une réponse, mais plusieurs. Et qu'il comprenne aussi que, en fait, la réponse vient de la pluralité.
Mmh.
Et je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir s'ouvrir de cette façon-là.
Alors, Alexandre, j'ai encore une question pour toi. Alors, moi, tu sais, aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans, mais c'est vrai que je me rappelle que, aussi petit que je sois, j'ai toujours eu ce sentiment qu'on, qu'on se construisait, qu'on avançait en échangeant avec les autres. Tu as l'impression que ta façon de penser a évolué depuis que tu fais ces ateliers et que tu échanges avec les enfants ?
Oui, parce que disons qu'il y a des choses où disons qu'il y a plusieurs choses où on peut se donner plus d'idées.
Oui.
On est tout seul, on a sûrement souvent qu'une idée, alors que si on est avec plus de gens, il y a de plus en plus d'idées.
Mmh. Ça nous ouvre justement sur l'idée de l'autre. Voilà, qu'on partage ou qu'on ne partage pas, mais en tout cas, c'est vrai que tu as raison, on glane les idées des autres, les choses auxquelles on n'avait pas spécialement pensé, on se dit « Ah tiens, oui c'est vrai, il a peut-être raison de penser comme ça ». Élodie, à votre avis, quels sont les bienfaits de la philosophie sur votre fils et en règle générale sur les enfants ?
Alors pour moi, je pense que ça lui a permis donc d'être plus à l'écoute des autres, de porter un regard plus ouvert sur le monde, d'échanger aussi avec des enfants qu'il ne connaît pas, parce que c'est aussi le principe.
Oui.
Donc c'est aussi ce aller vers l'inconnu, donc c'est important. Ça m'a permis de répondre à plusieurs de ses questions aussi, enfin de l'aider de l'accompagner dans des réponses possibles. Et plus globalement, je trouve que les enfants ont besoin de prendre le temps de parler ensemble, de discuter, de philosopher sur des questions qui les touchent tous. Et la société actuelle ou l'organisation actuelle fait qu'on a... c'est quelque chose qui est un peu oublié, je crois. Et dans ces ateliers, ils ont un espace pour le faire. Ils apprennent à découvrir l'autre, à découvrir la vie des autres. Et ils apprennent la démarche, en fait. Et je pense que cette démarche, elle est précieuse parce que c'est ce qui leur permettra plus tard d'évoluer et puis de faire de ces enfants des citoyens de demain, en fait, tout simplement.
Partager les idées, voilà quelque chose de précieux que l'on trouve dans ces ateliers. Merci beaucoup, Élodie, et merci à toi, Alexandre. Quel âge as-tu aujourd'hui ?
7 ans.
7 ans, dis donc. Et déjà philosophe, tu te rends compte de la chance que tu as ? Et comme ta maman l'évoquait, c'est vrai qu'au lieu de rester dans sa chambre et puis d'essayer de trouver sur son téléphone ou sur Internet des réponses tout seul, eh bien, j'invite à tous ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants qui sont dans le temps où on commence à se poser des questions, eh bien, je les invite à rejoindre ce type d'atelier philosophique. Merci beaucoup Alexandre et bravo, tu vois, parce que c'était très intéressant d'échanger avec toi cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Pour mieux comprendre les bienfaits de la philosophie sur les enfants, dans quelques instants, nous accueillerons Frédéric Lenoir, il est sociologue et il est auteur du livre « Philosopher et méditer avec les enfants » disponible aux éditions Albin Michel.
Europe 1. Jusqu'à 16h, nous parlons des bienfaits de la philosophie sur les enfants. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes adepte et vous avez proposé des ateliers philo à vos enfants, le standard d'Europe 1 39-21. Parce qu'il se pose beaucoup de questions sur l'origine du monde, sur l'origine de l'univers, comme Alexandre qu'on a entendu un petit peu plus tôt sur Europe 1, des questions sur l'amitié, sur l'amour, vous avez proposé des ateliers philo à votre enfant, le 39-21, pour discuter avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Frédéric Lenoir, sociologue et auteur du livre « Philosopher et méditer avec les enfants » disponible aux éditions Albin Michel. Bonjour monsieur et merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour à vous, merci.
Bonjour. Vous êtes parti à la rencontre de centaines d'enfants à travers le monde pour philosopher avec eux. Alors, vous dites d'eux qu'ils ont une étonnante capacité à penser, à réfléchir. Pas besoin d'être adulte pour se poser des questions existentielles ?
Non seulement pas besoin d'être adulte, mais j'ai découvert que tous les enfants s'en posaient, alors qu'un certain nombre d'adultes ne s'en posent plus du tout. C'est pour ça qu'on peut dire que tous les enfants sont des petits philosophes. Et qu'en fait, ils sont à un âge entre 4 ans et 10 ans où ils se posent toutes les grandes questions métaphysiques. Pourquoi est-ce qu'on existe ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Est-ce que la vie a un sens ? C'est quoi être heureux ? Etc. Et donc, ces grandes questions les hantent. Et les ateliers philo, c'est une formidable occasion pour eux d'en parler. Je dirais que même si on ne leur apporte pas de réponse, parce que la plupart de ces questions n'ont pas de réponse, elles ont simplement, si vous voulez, des pistes de réponse. Mais l'intérêt des ateliers philo, c'est plutôt de faire discuter les enfants. Et c'est une chose qui n'a pas encore été dite, Alexandre a très très bien expliqué que c'était un partage, un échange, mais en fait l'animateur des ateliers philo, l'adulte on va dire, ne dit jamais ce qu'il pense. C'est-à-dire que le principe de base des ateliers philo, c'est que l'animateur est juste là pour faire circuler la parole, relancer les enfants,
oui.
S'assurer que tous ceux qui ont envie de parler peuvent parler, de recentrer le débat si on part hors sujet. Mais à aucun moment il ne s'agit d'un cours de philosophie.
D'ailleurs on l'a très bien entendu. On l'a très bien entendu dans le constat que faisait Alexandre tout à l'heure. Il disait, justement, il parlait des idées des autres enfants. C'est ce qu'il en retenait.
Voilà. Ce sont des échanges, des débats. Et en fait, l'avantage des ateliers philo, je dirais que le premier, c'est que les enfants peuvent exprimer ce qu'ils pensent. Et c'est très rare qu'à l'école, on leur dit « Toi, tu penses quoi du bonheur? Tu penses quoi de l'amour ?» C'est très rare. Et donc, c'est un des rares lieux où ils peuvent, je dirais, aller au fond d'eux-mêmes, chercher des convictions, des croyances, éventuellement des opinions, puis essayer de les vérifier auprès des autres. Et le deuxième avantage, c'est que c'est un échange, c'est un débat, et donc ils s'enrichissent de la pensée des autres. D'ailleurs, vous évoquez tout à l'heure le film Le Cercle des Petits Philosophes, oui, qui est toujours au cinéma, dans une cinquantaine de villes en France. Et dans ce film, on voit très bien que les enfants disent « mais on s'enrichit de la pensée des autres, puisqu'on pense mieux ensemble ». Il y a une petite fille qui termine en disant « mais je me suis aperçu qu'on pense mieux ensemble ».
On pense mieux ensemble, ouais.
Voilà, ça crée de l'intelligence collective des ateliers philo. Il y a plein d'enfants, on le voit très bien, qui disent quelque chose, et puis les autres le contredisent, et puis finalement, ils progressent ensemble.
Ouais.
Et c'est ça toute l'histoire de la philosophie.
Ils cheminent enrichis de la pensée de l'autre. Alors justement, vous posez une question importante, vous qui avez donc rencontré des centaines d'enfants à travers le monde et philosophé avec eux. Pourquoi attendre la classe de terminale pour aborder des questionnements existentiels? Parce que vous évoquez des parents qui se posent peu de questions, et j'ai envie de vous dire, pour peu qu'ils s'en soit posé un jour, des questions philosophiques. Alors justement, pourquoi en fait, qu'en terminale la philosophie?
Alors en fait, parce que ce qu'on fait en terminale, ce n'est pas des ateliers philo, on ne demande pas aux élèves de philosopher, en fait on fait de l'histoire de la philosophie.
Oui.
Et donc c'est vrai que pour faire de l'histoire de la philosophie, pour lire Kant, Aristote ou Schopenhauer, il faut avoir une assez grande maîtrise des concepts et du langage. Un enfant de 8 ans, il n'a pas les mots, il n'a pas le vocabulaire pour lire dans le texte ces grands philosophes. Et donc, ce qui fait qu'on a retardé l'histoire de la philosophie, simplement parce que le langage habituel des philosophes est assez complexe. Mais on peut beaucoup plus tôt philosopher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande maîtrise conceptuelle pour déjà avoir des bonnes idées et pour être capable, avec des mots qui ne sont pas toujours adaptés, mais qui progressent. On voit les enfants, ils progressent dans le cheminement de la pensée et de l'apprentissage du vocabulaire. Parce que c'est un des avantages des ateliers philo, c'est quand ils cherchent un mot, eh ben, des fois on peut leur dire « est-ce que c'est ça que tu cherches ?» Ils disent « oui, c'est ça
».
Et du coup, ils avancent aussi. Et donc finalement, on peut très jeune philosopher, même si pour faire de l'histoire de la philosophie, lire les grands philosophes dans le texte, il faut effectivement avoir au moins, je dirais, 14-15 ans pour être capable de maîtriser le vocabulaire.
Frédéric Lenoir, je rappelle que vous êtes sociologue et auteur du livre « Philosopher et méditer avec les enfants » disponible aux éditions Albin Michel, que vous avez eu cette chance, vraiment cette grande chance de philosopher avec des centaines d'enfants à travers le monde. Vous restez en ligne avec nous, vous allez continuer à nous donner vos éclairages. Dans quelques instants, nous accueillerons Lucie. Elle constate que les ateliers philo que fait sa fille Maloé l'aident à prendre encore plus et beaucoup mieux la parole en public.
Europe 1. Les enfants et la philo cet après-midi, vous avez proposé des ateliers de philosophie à vos enfants ou un simple éveil à la philo pour leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Venez nous raconter votre histoire au 39-21. La philosophie et les enfants, proposez-vous des ateliers philo à vos enfants? Vous nous racontez, Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous allons en discuter avec Lucie de ces ateliers philo. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Lucie.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 42 ans, j'appelle de Rosny-sous-Bois.
D'accord. Alors, comme Élodie, que nous avons eu en début d'émission, votre fille a très rapidement commencé à vous poser des questions existentielles. Lesquelles et que lui avez-vous répondu?
Alors, comme tous les enfants, je pense, les questions du pourquoi,
oui.
L'étape du pourquoi, où on a le droit à tout et n'importe quoi.
Mm-hmm.
Donc, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les oiseaux volent, pourquoi les gens meurent, voilà.
Alors,
plein de questions.
Et alors, comment vous lui répondiez à celle qui était, vous savez, le plus liée aux questions métaphysiques, comme on avait Alexandre tout à l'heure, pourquoi l'univers existe-t-il, c'est quoi l'infini, et le temps, pourquoi il ne s'arrête jamais? Enfin, comment est-ce qu'on répond à ces questions qui sont quand même assez compliquées, en fait?
Exactement. Alors, les questions les plus compliquées, en général, j'aime bien botter en touche au départ,
oui,
et réfléchir à ce que je vais répondre. Parfois, pourquoi pas trouver un support littéraire, littérature de jeunesse. Il y a quand même pas mal de livres qui permettent justement de répondre à ces questions de façon peut-être parfois détournée.
Mmh.
Mais finalement, souvent, on arrive à trouver des choses intéressantes pour tout plein de sujets.
Alors, vous avez la double casquette, hein, Lucie, parce que vous êtes maman, donc vous avez dû affronter les questions de Maloé à la maison, mais vous êtes aussi enseignante et vous essayez de philosopher avec vos élèves. Vous dites que la plus grosse difficulté, c'est de rester dans le sujet et de canaliser les questions. Comment faites-vous alors ?
Alors, moi, je suis enseignante en maternelle, donc c'est peut-être ça qui fait que souvent, quand on... il y a une problématique qui se crée dans la classe ou dans la cour et que du coup, j'essaye de rebondir sur le problème en essayant de le réaborder dans un contexte beaucoup plus apaisé, avec tout un rituel qui va amener le questionnement, de repartir du point de départ. Donc ça peut être, je sais pas, une altercation dans la cour entre deux élèves et d'essayer d'arriver à comment est-ce qu'on peut régler les conflits, pourquoi est-ce qu'il y a des conflits, c'est quoi la violence, etc., etc. Et du coup, en partant de deux sujets très concrets, d'essayer de laisser la parole aux enfants pour qu'ils parlent éventuellement de leurs propres expériences aussi. Et donc, la difficulté avec les élèves de maternelle, évidemment, c'est d'arriver à se canaliser, à parler de soi, mais pas que de soi, et d'essayer d'écouter les autres.
Oui. Voilà. Mmh. Vous avez aussi donc inscrit Maloé, qui a aujourd'hui 10 ans, dans des ateliers de philosophie. Vous dites que cela a eu des bienfaits sur sa prise de parole en public. Elle était timide avant, elle était un peu introvertie, et le fait de partager ses idées avec d'autres l'a amenée à être plus à l'aise en public ?
Oui, beaucoup. Et puis d'écouter les avis des autres et d'aller maintenant de sentir qu'en fait, quand en groupe, on arrive parfois à évoluer dans le raisonnement, qu'on peut avoir une idée et puis finalement d'être dans un groupe, ça peut parfois nous faire carrément changer d'avis.
Mmh. Vous sentez que ces questions et ces réflexions sont maintenant plus poussées, plus abouties ?
Oui. Elle est vraiment très à l'aise dans le langage oral et elle réfléchit vraiment bien, quoi. Puis elle arrive à argumenter, à écouter les autres, elle s'intéresse, elle est curieuse.
Frédéric Lenoir, je rappelle que vous êtes sociologue et auteur du livre « Philosopher et méditer avec les enfants ». Les enfants qui philosophent très jeunes ont-ils de meilleurs résultats scolaires ?
Alors, c'est pas forcément lié, parce que en fait, vous avez des enfants qui sont excellents pour philosopher, c'est-à-dire qu'ils adorent exprimer leurs pensées, dialoguer, construire une réflexion, et qui n'aiment pas répéter ce qu'ils ont appris à l'école. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui s'ennuient à l'école, qui sont pas très bons dans les matières où il faut un peu apprendre, mais qui par contre sont bien meilleurs dans la réflexion personnelle. Donc ça cohabite, c'est pas forcément les mêmes. Et d'ailleurs très souvent, on voit des enfants qui sont pas bons en classe, et puis ils font des ateliers philo, et les enseignants nous disent à la fin, mais ils se sont révélés comme parmi les plus intelligents, les plus capables de penser, alors qu'on pensait qu'ils étaient pas très bons.
Bon,
et c'est simplement que c'est deux choses différentes.
Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cela doit apporter une certaine quiétude, hein, de structurer sa pensée et puis de pouvoir profiter de la richesse des uns et des autres et puis aussi de pouvoir la communiquer sa propre version des choses, sa sensibilité. Donc, ce n'est pas étonnant que ces enfants s'améliorent tout de même en tout point. Donc, vous restez avec nous, Frédéric Lenoir. Et puis, Lucie, vous restez aussi avec nous parce que Maloé a tellement gagné en confiance en elle. C'est que, on l'aura au téléphone dans la prochaine partie de cette émission. Restez tous avec nous.
Europe 1. Vous faites comme Lucie, qu'on vient d'entendre. Vous faites suivre à vos enfants des ateliers philo. Qu'est-ce que ça leur procure ? Quelles sont les vertus de la philosophie sur les enfants selon vous ? Vous nous racontez comment ça se passe à la maison au 39-21.
Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel ?
C'est mieux d'être immortel et comme ça tu restes en train de manger et dormir.
T'as peur de la mort ou pas, toi ?
On nous fait vivre et pourquoi on reste pas tout le temps sur Terre ? C'est la question que je me pose.
Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Tout sera gratuit. Parce que tout est payant dans le monde. Sauf la livraison chez Amazon Premium.
Extrait du Cercle des Petits Philosophes, un film de Cécile Dangean qui est encore
en
salle, comme le soulignait Frédéric Lenoir, qui invitait vraiment à aller voir ce film parce que vraiment il est très plaisant et peut réveiller chez nous l'envie de faire philosopher nos enfants.
Oui, qu'est-ce que le bonheur, l'amour, pourquoi est-ce qu'on vit, la philosophie, peuvent les aiguiller, vos enfants. On vous écoute au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Frédéric Lenoir, nous accueillerons encore Lucie et Maloé. Ensuite, Monsieur Lenoir, en fait, peut-on, au-delà des ateliers, philosopher avec ses enfants, même quand on a peu de connaissances dans le domaine, et quels conseils donneriez-vous à ceux qui nous écoutent et qui ont cette envie ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a, une méthode à apprendre. On peut tout à fait apprendre une méthode qui permet de questionner en restant le plus ouvert possible. On peut avoir des fiches de lecture qui nous aident un petit peu. Bon, par exemple, dans mon ouvrage, il y a une vingtaine de notions de philosophie qui proposent des questionnements très simples pour développer un questionnement avec les enfants. Mais il y a des grands-parents qui font ça avec leurs petits-enfants. Je pense que le plus important, c'est qu'il y ait au moins 5 ou 6 enfants. Parce que c'est important qu'ils puissent dialoguer entre eux. S'il n'y a que 2-3 enfants, ce n'est pas assez.
D'accord.
Donc, je dirais que minimum 5-6 enfants, et on peut le faire dans des médiathèques, en périscolaire, etc. Et donc, il y a plein d'outils qui sont proposés, il y a plein de petits livres aussi qui proposent des méthodes pour simplement apprendre à questionner les enfants et qui dialoguent entre eux. Puisque l'essentiel, c'est de leur apprendre à s'écouter, à dialoguer, à argumenter, et pas être simplement dans le choc émotionnel des opinions.
Alors, on va voir avec Maloé, qui est la grande fille de 10 ans de Lucie. Bonjour Maloé, tu es là ?
Bonjour.
Bonjour. Voilà, on a eu ta maman qui nous expliquait combien les ateliers de philosophie avaient été bénéfiques pour toi. Qu'est-ce que tu en retires, toi, le premier sentiment ? Est-ce que ça a structuré ta pensée ? Est-ce que tu te sens plus riche, plus à l'aise aujourd'hui ?
Plus à l'aise au jour d'aujourd'hui pour parler, parce que du coup, ça a développé... une certaine façon de voir un peu comment s'exprimer, de débattre avec les autres d'idées et de sujets. Donc ça, oui, ça apporte quelque chose. Donc ça ne veut pas dire que la philosophie n'apporte rien.
C'est ça, en fait, on entend beaucoup, hein, ça on l'entendait avec Alexandre tout à l'heure, cette notion de partage des idées des autres. On entendait tout de suite Frédéric Lenoir évoquer au moins 5 à 6 enfants pour monter un atelier de philosophie efficace. Tu es d'accord avec ça ? Le fait que les autres t'aient proposé aussi une autre manière de voir les choses, c'est ce qui t'a enrichi ?
Oui, on va dire que c'est à peu près ça. Puis le fait est de la connexion de tous les cerveaux, en fait. Le fait est que chacun ait ses idées et que tout le monde les partage. Donc, du coup, c'est intéressant de voir le point de vue de chacun.
Oui. Et alors, quelles étaient les questions, en tout cas, ce que tu retiens de ces ateliers philosophiques ? Quelles sont les questions qui t'ont le plus habité et qui t'ont fait le plus avancer ?
Je vais dire les questions de qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il va apprendre, comment va-t-il évoluer ? Toutes ces questions, en tant qu'enfant, en fait, ça fait réfléchir et de se dire, c'est vrai qu'après, je vais devenir un ado, et puis après un adulte, et ça permet de réfléchir et de prendre un peu de recul et que du coup, de penser que du coup, il y a plusieurs étapes.
D'accord.
Plusieurs étapes et que du coup on ne restera pas enfant toute notre vie, et ça fait pas mal réfléchir.
Oui, alors je vois que ça carbure à fond dans ton cerveau et c'est très bien, Maloé. Lucie, du coup à la maison, ça doit être du boulot quand même de philosopher, de répondre maintenant, parce que là ça marche très très bien. Hein.
Oui, ça marche très très bien, comme on a dit, comme vous avez écouté.
Et justement, donc, vous sentez d'aplomb pour répondre aujourd'hui, en tout cas plus armé ?
Là, on parlait tout à l'heure des enfants vers 4-5 ans qui sont à l'étape du pourquoi. Là, à 10 ans, c'est une autre étape encore sur justement l'année prochaine, le collège, l'adolescence et tous les questionnements, toutes les craintes que ça peut engendrer.
Oui.
Donc voilà, là, on est dans cette étape-là. Donc ça se nourrit aussi, des films, des livres. Et puis on essaye de discuter ensemble. Après, elle n'a pas forcément encore fait d'atelier philo sur le sujet. Mais on va voir si un de ces quatre, il y en a un qui correspond un peu à ses interrogations actuelles.
Bon, en tout cas, après cette brève intervention de Maloé, on voit combien ça marche bien et combien elle a avancé. Et puis alors, aucun problème, elle est très à l'aise pour parler en direct, tout en sachant qu'elle est écoutée par des milliers d'auditeurs. Bravo pour cette démarche qui est très, très, très instructrice. Je pense à beaucoup de parents qui aujourd'hui se disent « Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé ?» Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, Maloé. Frédéric Lenoir, vous restez toujours en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous serons avec Chiara, qui anime depuis 2014 des ateliers de philosophie pour pour les enfants.
Europe 1. Vous composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h pour nous dire si vous proposez un éveil à la philosophie, des ateliers philo à vos enfants et si oui, comment ça se passe? On vous écoute sur Europe 1. Les enfants et la philosophie, des ateliers pour les aider à penser par eux-mêmes, à réfléchir, raisonner. Quels sont les bienfaits de la philo sur les enfants? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous accueillons maintenant Chiara sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Chiara.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je pense que je ne me trompe pas en disant que vous animez des ateliers de philosophie depuis 2014, des ateliers de philosophie avec les enfants. Et puis, vous avez écrit aussi un ouvrage que l'on trouve aux éditions Nathan, une année d'atelier philo-art. Alors, avec tout cela, vous allez pouvoir nous parler de ce questionnement et puis de ce qu'apporte justement la philosophie à nos enfants. Vous avez une thèse de philosophie. À quel moment vous est venue l'idée d'en faire avec les enfants ?
Oui, alors effectivement, moi j'ai un parcours assez classique, hein, philosophie avec une thèse que j'avais soutenue en 2008. Et quand j'avais soutenu ma thèse, je ne savais pas que la philosophie avec les enfants existait. Oui. Moi je suis venue à la philosophie avec les enfants, avec mes propres enfants. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, avec la maman d'Alexandre, la maman de Maloué. Oui. On voit bien que les enfants, dès que le langage se met en place de façon plus complexe, donc vers 3-4 ans, on peut dire, ils commencent à poser des questions philosophiques, des questions métaphysiques profondes. Et c'est là que je me suis dit, il faudrait faire quelque chose de philosophique avec les enfants. Et effectivement, ce n'était pas une idée originale, parce que la discipline existe depuis désormais une cinquantaine d'années. Elle existe depuis le début des années 70, et le fondateur est Matthew Lipman, qui était professeur aux États-Unis.
Alors, même si ça existe depuis longtemps, aujourd'hui, force est de reconnaître que ces ateliers deviennent de plus en plus présents, ici et là en France. Quelles sont les questions qui reviennent pour vous, Chiara? Quelles sont les questions existentielles, principales, qui animent la tête et l'esprit de nos enfants?
Les questions qui reviennent sont des questions en rapport avec le sens de la vie, le sens de la mort. La question de la mort est vraiment une des premières questions qui émergent chez les tout-petits. Et puis, des questions sur la relation à l'autre, donc oui. Sur l'amitié, par exemple. Des questions plus générales sur, effectivement, l'origine de l'univers, de la vie. Des questions existentielles profondes.
Vous dites aussi que la philosophie permet aux enfants de développer leur esprit critique, leur attention, du respect et de l'écoute. Comment l'expliquez-vous ?
Oui, disons que ces questionnements enfantins est assez spontané, mais après notre rôle d'animateur est de accompagner ces enfants à développer leur esprit critique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne donne pas des réponses, évidemment, mais au contraire, on travaille sur des compétences de pensée, sur des compétences de raisonnement. On accompagne les enfants, par exemple, à conceptualiser, donc à mieux définir un concept, à faire des distinctions conceptuelles, à fournir des arguments. Donc, il ne s'agit pas simplement de dire et de donner son avis, mais de le justifier. On accompagne les enfants à problématiser des questions. Donc, on travaille, disons, sur la forme, sur des compétences proprement philosophiques. En ce sens,
allez-y, je vous en prie.
J'ai dit, en ce sens, on contribue effectivement à développer l'esprit critique des enfants, mais ça ne se fait pas sans tout un travail aussi sur un niveau, disons, plus émotionnel, relationnel, c'est-à-dire qu'il y a un travail effectivement sur les émotions, l'identification des émotions, et donc on accompagne les enfants à mieux gérer les émotions, à mieux se connaître, et donc à mieux connaître les autres. Ce qui amène à travailler sur l'empathie, la coopération, le respect de l'autre, la tolérance pour la différence. L'atelier philo, c'est un espace où, et on l'a dit tout à l'heure, évidemment, il y a plusieurs points de vue qui cohabitent. Et cette différence, cette pluralité de points de vue, ce n'est évidemment pas un obstacle, mais c'est ce qui fait la richesse de la discussion à visée philosophique.
En vous écoutant, je me repose la question que j'avais posée à Frédéric Lenoir tout à l'heure. Pourquoi la philosophie ne pourrait pas être enseignée beaucoup plus jeune à l'école ? Ce serait une bonne chose, non ?
Bah, bien sûr. Donc moi, je pense que le plus tôt on commence, le mieux c'est pour ces enfants, pour leur permettre d'avoir un espace où aborder des questions qui leur tiennent au cœur depuis qu'ils ont la possibilité de parler. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un espace qui n'est pas forcément donné à l'école et pas toujours non plus au sein des familles. Et puis, cette pratique permet vraiment d'outiller les enfants, de les armer dans un monde qui est de plus en plus complexe. Et donc, ça leur permet de prendre du recul, de la distance, de réfléchir par rapport à toutes les informations qui leur sont posées, imposées par la société, les médias, etc.
Merci beaucoup, Chiara. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une année atelier philosophie-art aux éditions Nathan, que vous avez aussi créé des ateliers philosophiques pour les enfants depuis 2014. Mille merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci à Élodie, à Alexandre, merci à Lucie et à Maloé, merci à vous, Chiara, et à Frédéric Lenoir pour ces éclairages. Alors, on ne peut pas apprendre la philosophie, on ne peut qu'apprendre à philosopher, disait Emmanuel Kant. Et nous l'avons vu tout au long de cette émission, les enfants ont aussi des choses à dire sur le sujet et beaucoup de questions encore à venir. Philosopher permet d'être connecté au monde, de s'ouvrir, d'écouter les autres, d'apprendre le respect et l'ouverture d'esprit. Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, celui de Frédéric Lenoir, bien sûr, mais aussi Les grandes questions philo par Anne-Sophie Chillard aux éditions Bayard. Vous pouvez aussi vous tourner vers des ateliers, vous aussi, de philosophie pour vos enfants si vous le souhaitez. Et vous verrez qu'à la maison, ça augmente les échanges et les discussions. Vous pouvez aussi continuer à philosopher sur réseaux sociaux.
Mais avec grand plaisir sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, vous échangez entre vous, Twitter également, hashtag Europe 1. J'aimerais juste signaler que sur le groupe de l'émission, vous êtes désormais 4000 membres sur Facebook, donc on tient à vous remercier encore de votre confiance et de votre fidélité.
Europe 1.
Comment trouver le bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle ? Eh bien, ce sera le thème de demain. Si vous travaillez tout le temps et que cela empiète sur votre vie personnelle, si vous travaillez avec votre famille ou avec votre partenaire, si vous ne voulez plus faire de sacrifices à cause du travail et que vous voulez vous concentrer sur votre famille, appelez-nous au 3921 et Omblin et moi-même, nous serons là pour vous écouter. Oui. J'étais ravi de passer cette heure à vos côtés, comme d'habitude.